Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale alors qu'il est maintenant 19h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
RFI Soir continue avec tout de suite un nouveau journal. Et c'est avec vous, Adrien Delgrange. Bonsoir.
Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. De retour en urgence en Israël, un premier avion avec à son bord des supporters israéliens a atterri à Tel Aviv. Ils ont été évacués d'Amsterdam après des agressions subies à la sortie d'un match de football hier soir. Incident qui intervient dans un contexte de guerre au Proche-Orient. Nombreuses sont les réactions à l'international. Nous y revenons dès le début du journal. La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine pousse les Européens à lancer urgemment des réformes économiques, dit Mario Draghi, l'ancien Premier ministre italien aux 27, réunis aujourd'hui en Hongrie. Dans ce journal, le portrait d'une femme de l'ombre qui a largement contribué au retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Sur le continent africain, le Botswana a officiellement un nouveau président. Depuis aujourd'hui, il s'appelle Dumo Boko. Il incarne l'alternance politique paisible dans ce pays d'Afrique australe. En France, au risque de stigmatiser Marseille, la cité phocéenne choisie par deux ministres aujourd'hui pour illustrer la lutte contre les trafics de drogue.
Également dans RFI Soir, le sport avec des résultats du football, l'éditorial international, le monde en question et ce qu'il y a à lire dans le magazine L'Équipe du week-end.
RFI.
La haine des Juifs à la sortie d'un match de football. C'était hier soir à l'issue d'une rencontre entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Dans les rues de la capitale néerlandaise, des supporters israéliens pris à partie, violemment agressés, frappés. La classe politique européenne s'en émeut. En France, Emmanuel Macron condamne fermement des événements qui rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz souligne celui qui attaque des Juifs s'attaquent à nous tous, jusqu'à l'ONU qui se dit très perturbée, dont le haut commissaire aux droits de l'homme. Personne ne devrait être soumis à la discrimination ou à la violence sur la base de son origine nationale, religieuse ou éthique. Au total, 5 personnes ont été hospitalisées. On compte également une trentaine de blessés légers. Nous retrouvons Pierre Benazé à Bruxelles pour RFI. Pierre, lors d'une conférence de presse à Amsterdam, la mairie, la police et la justice ont fourni des précisions sur les événements qui ont en fait commencé à déraper dès mercredi.
Oui, les autorités reconnaissent que le dispositif policier n'a pas suffi à empêcher les violences à l'encontre des supporters du Maccabi, pris à partie par des jeunes pro-palestiniens, certains poursuivis à pied ou en scooter, roués de coups, un autre forcé de crier « Palestine libre » ou de montrer son passeport, celui-ci jeté dans un canal, celui-là percuté par une voiture. Les torts initiaux sont partagés car mercredi soir, effectivement, des supporters israéliens avaient brûlé un drapeau au centre d'Amsterdam, mais aux provocations verbales et symboliques des supporters israéliens, les jeunes des cités, comme les décrit la mairesse d'Amsterdam, Femke Halsema, ont choisi eux de répondre par la violence physique sur 62 personnes. Ils étaient 10 jours en détention, dont 2 mineurs. La police annonce avoir commencé l'identification des auteurs des violences grâce aux nombreuses vidéos. Le parquet promet des poursuites exemplaires. Le premier ministre néerlandais Dick Schroef garantit que les Pays-Bas n'accorderont aucune indulgence. Et la mairie, elle, met en place des mesures supplémentaires à cause des commémorations de la nuit de cristal ce samedi avec interdiction manifestée, renforcement du dispositif policier et autorisation de fouilles préventives.
Parmi les vigilances mises en place et autres condamnations, notons celle de la mairesse d'Amsterdam, les violences se sont déroulées dans sa ville, Femke Halsema.
Nooit was het antisémitisme ver weg.
L'antisémitisme n'a jamais été bien loin. Hier, nous avons assisté à une explosion d'antisémitisme comme nous espérions ne plus en voir à Amsterdam. Je suis indigné et au nom du conseil municipal et de la police nationale, je condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence qui ont eu lieu. Parmi les Juifs d'Amsterdam, il y a de la peur, de la consternation, de la colère, de l'incrédulité. La police nationale fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des habitants juifs d'Amsterdam.
De driehoek zet alles op alles voor de veiligheid van Joods Amsterdam.
Femke Halsema, maire d'Amsterdam.
Et face à cette émotion, le chef de la diplomatie israélienne est attendu ce soir à Amsterdam.
Par ailleurs, le gouvernement israélien a décidé d'envoyer des avions pour rapatrier les supporters. Le premier avion a atterri dans la journée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Et puis notons que le premier ministre israélien ordonne au Mossad, le service des renseignements israéliens, de préparer un plan d'action pour éviter des violences lors des événements sportifs à venir. Quant au patron du club de foot, le Maccabi Tel Aviv, il s'est aussi exprimé devant les journalistes à la descente de son avion en Israël.
Ce n'était pas lié au football. Beaucoup de ces gens sont allés regarder un match pour soutenir le Maccabi Tel Aviv, pour soutenir Israël et l'étoile de David. Et les voir se jeter dans les canaux, se faire frapper au sol alors qu'ils étaient sans défense, contraints de renier leur appartenance au peuple juif, c'est vraiment très triste, surtout après l'année que nous venons de traverser.
Enfin, un autre match de football inquiète. France-Israël, prévu la semaine prochaine. La rencontre est maintenue. Le match se déroulera au Stade de France jeudi prochain, a confirmé dans la journée le ministre français de l'Intérieur.
RFI.
Aux États-Unis, l'effervescence des élections retombe peu à peu. Chaque camp prépare désormais la passation de pouvoir.
Une passation officielle entre Joe Biden et Donald Trump le 20 janvier prochain. Et l'on sait déjà que Donald Trump a choisi Suzy Wiles comme chef de cabinet de la Maison Blanche. Alors c'est l'un des postes les plus exigeants du pouvoir aux États-Unis. Suzy Wiles, première femme à ce poste prestigieux, récompensée pour son travail de fourmi pendant la campagne présidentielle. Car c'est elle, Vincent Souriau, qui sera parvenue à imposer de la discipline aux candidats républicains dans sa reconquête de la présidence.
Vous ne la verrez pas apparaître dans les médias. Même lorsque Donald Trump l'a remerciée dans son discours au soir de l'élection, elle a refusé de prendre le micro, toujours discrète, malgré ses 67 ans, très longue expérience politique côté républicain. Elle vient de Floride, elle y a mené des dizaines de campagnes, travaillé avec des maires, des candidats au Congrès, fait élire le gouverneur Ron DeSantis, puis elle a rejoint l'équipe Trump pour la présidentielle 2016, d'abord 2020 ensuite, d'abord au niveau local, toujours en Floride, jusqu'à cette troisième candidature où elle change de dimension. Elle devient, sans en avoir le titre officiel, directrice de campagne. On lui doit d'avoir mis de l'ordre autour de Donald Trump. Beaucoup moins de courtisans, de parasites ont eu accès à lui pendant la course à la Maison Blanche. Et ça, c'est son obsession. Pour accepter le poste de chef de cabinet, elle aurait même, selon CNN, posé une condition, qu'on en finisse avec le défilé des copains dans le bureau ovale. En revanche, pour ce qui est de la politique pure, pas de limite. Elle est là pour faire appliquer sans restriction les mesures de Donald Trump, y compris les plus extrêmes sur le climat ou sur l'immigration.
Contrer les États-Unis. Les 27 réunis en sommet en Hongrie à Budapest ont lancé aujourd'hui un vaste plan de réforme pour relancer l'économie européenne sous la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis de Donald Trump. Les réformes économiques sont devenues encore plus urgentes avec l'élection de Donald Trump, a averti Mario Draghi, l'ancien premier ministre italien, alors que le milliardaire américain a promis de taxer les importations de produits européens. L'ancien président de la Banque Centrale Européenne a publié début septembre un rapport pour relancer la croissance dans une Europe qui décroche par rapport aux États-Unis. L'Europe doit relancer sa croissance grâce à des investissements massifs dans l'innovation numérique, la transition verte ou encore les industries de défense, estime Mario Draghi.
Ce retour à l'envoyeur dans l'actualité, puisque 2000 tonnes de déchets industriels, potentiellement toxiques, ont regagné le port albanais de Durrës.
Après 4 mois en mer, des arrêts à Singapour, en Italie, en Espagne, au Portugal ou encore en Turquie, le porte-container Moliva, battant pavillon turc, est revenu à son point de départ aujourd'hui, le port de Durrës. Elodie Papin, c'est la fin, du moins pour l'instant, d'une véritable odyssée pour ce bateau dont personne ne voulait.
Le navire Moliva quitte l'Albanie début juillet. À son bord, plus de 2 tonnes de déchets industriels, de l'oxyde de fer, selon la déclaration aux douanes albanaises, dont l'exportation est autorisée. Mais un lanceur d'alerte prévient l'ONG américaine Basel Action Network, spécialisée dans la traque des déchets toxiques. D'après lui, le bateau transporterait en fait des poussières de fours à arc électrique utilisées pour la fabrication de l'acier. Ces poussières peuvent contenir des éléments toxiques pour l'homme et pour l'environnement, notamment du plomb, du chrome ou du cadmium. La Thaïlande, destination initiale du Moliva, refuse alors les déchets. Le bateau erre ensuite 4 mois en mer, avec des escales à Singapour, en Italie ou en Turquie. Il a regagné ce vendredi son port de départ en Albanie, où une enquête a été ouverte pour contrebande de marchandises interdites et abus de pouvoir. Selon les responsables du port de Durres, les conteneurs vont être transportés et ouverts sous la surveillance de la police et leur contenu sera analysé. Les fours à arc électrique sont de plus en plus utilisés par les industriels de l'acier. Ils permettent certes une fabrication décarbonée, mais imposent une gestion stricte de ces poussières toxiques.
Il en sera question dans 20 minutes dans Afrique Soir sur RFI. Cette journée historique au Botswana.
Ce pays d'Afrique australe connaît pour la première fois, Philippe, depuis son indépendance il y a près de 60 ans, une alternance politique. La transition se passe sans heurts. Une cérémonie s'est déroulée ce matin au stade de la capitale Gaborone. Moment solennel pour installer un nouvel homme à la tête de l'État suite aux élections qu'il a largement remportées le 30 octobre dernier. Le nouveau président du Botswana s'appelle Duma Boko. Il a 54 ans. Il est issu d'une alliance de partis de gauche appelée la Coalition pour un changement démocratique.
Adrien, on le savait déjà, ne pas assez manger ou mal manger a des conséquences sur la santé.
Mais ça a également aussi, Philippe, des conséquences économiques. La FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, a fait les calculs, Justine Fontaine. La sous-nutrition et la malnutrition coûtent près de 10 000 milliards de dollars par an à l'économie mondiale.
Cela représente près de 10% du PIB de la planète. Voilà pour le chiffre global. Un montant gigantesque et probablement sous-estimé, souligne l'agence dans un rapport publié ce vendredi. Dans le détail, la facture la plus lourde, on la doit à la malbouffe. Le fait de trop manger de sel, de viande rouge, de produits industriels transformés ou encore de ne pas assez manger de fruits, de légumes et de céréales complètes. Une mauvaise alimentation qui provoque de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et coûte particulièrement cher aux pays développés. La sous-nutrition, ensuite, a elle aussi des conséquences économiques, car ne pas manger assez ne permet pas de rester en bonne santé, d'étudier, de travailler normalement. Et si on regarde à l'échelle économique de chaque pays, la malbouffe et le manque de nourriture pénalisent proportionnellement beaucoup plus les pays pauvres ou confrontés à des conflits. Ça a coûté au Soudan du Sud l'équivalent de 18% de son PIB en 2020, et à l'Ukraine ou à la République centrafricaine, 15% de leur PIB.
18h30. 13 en temps universel, l'heure du dossier de RFI Soir. Nous allons à Marseille, c'est la deuxième ville de France, et c'est là qu'un plan national contre le narcotrafic a été présenté aujourd'hui.
Règlement de compte, meurtre, le phénomène prend de l'ampleur à Marseille. Ce plan de lutte a été présenté à la fois par le très à droite, ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et par le ministre de la Justice, issu de la gauche, Didier Migaud. Victorien Villaume, vous avez été aujourd'hui notre envoyé spécial à Marseille. Les deux hommes appellent à faire front commun contre le narcotrafic.
Adepte des phrases choc, le ministre de l'Intérieur dénonçait récemment une mexicanisation de la France. À Marseille, Bruno Retailleau reste sur la même ligne. Le narcotrafic, dit-il, représente une menace existentielle pour notre démocratie.
Désormais, les drogues les plus dures sont disponibles partout, tout le temps. Dans les villes, dans les quartiers, dans la ruralité, dans nos villages. Aujourd'hui, le point de bascule, c'est un rajeunissement de ceux qui tuent et de ceux qui sont tués.
Des propos moins grandiloquents de la part du garde des Sceaux, même si Didier Migaud se dit désormais en totale harmonie avec Bruno Retailleau.
La menace que cette criminalité organisée représente est multiforme, grandissante, tentaculaire, elle touche des innocents. Le combat de l'État doit se faire désormais à armes plus égales.
Victorien, que contient le plan qui a été présenté ?
Une trentaine de mesures, sans toutes les citer. Il est question de donner plus de moyens aux enquêteurs, de permettre une meilleure transmission des informations, mais aussi de créer un parquet national spécialement dédié à la criminalité organisée.
Il donnera beaucoup plus de visibilité et d'efficacité aux équipes remarquables qui œuvrent déjà aujourd'hui sans relâche au sein du parquet de Paris, que nous devons aider et renforcer.
Bruno Retailleau a lui aussi longuement déroulé le dispositif. Il souhaite que la police puisse notamment taper directement au portefeuille des dealers.
Il faut que le délinquant qui trafique puisse être expulsé de son logement. Et il faut que le voyou qui roule en gros cylindré puisse, là encore, s'expliquer sur le financement de son véhicule.
Alors une poignée de mesures vont a priori être mises en place rapidement par le gouvernement, comme le renforcement des équipes anticriminalité. Mais la plupart des mesures devront d'abord être validées par le Parlement français à travers un texte présenté en début d'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur se dit certain que ce texte, qui trouve ses origines à droite et à gauche de l'échiquier politique, trouvera une très large majorité au Parlement. Quant à savoir si tout ça servira vraiment à quelque chose, Didier Migaud le concède. Ce combat contre le narcotrafic prendra des années, 10, 15, 20 ans peut-être.
Un dossier RFI à Marseille, signé Victorien Villaume. À 18h15 à Dakar, 19h15 à Paris, la suite d'RFI sort avec vous, Philippe Le Caplain.
Adrien Desgranges qui revient dans 3 quarts d'heure pour de nouvelles informations. Les sports. Babacar Diarra, football, 11e journée du championnat de France. Elle s'ouvre ce soir avec deux clubs pas concernés par les Coupes d'Europe cette semaine.
L'Olympique de Marseille reçoit au Vélodrome la JOCR. Face au promu bourguignon, les Phocéens ont l'occasion de retrouver le sourire à domicile après deux matchs sans victoire devant leurs supporters. Mais attention aux Auxerrois, 10e de Ligue 1, après avoir engrangé 10 points sur les 5 derniers matchs, ils restent même sur une écrasante victoire contre Rennes 4-0. De quoi leur donner confiance et motivation avant d'affronter l'OM. C'est l'avis du défenseur international l'espoir ivoirien Clément Akpa.
Quand on joue contre ce genre d'équipe, c'est voilà, en face il y a des noms, il y a de grands joueurs, et donc c'est un surplus de motivation. Après, je pense que au vu de ce qu'on a montré sur ces derniers matchs, notamment ce que nous on recherchait, c'est vrai qu'à domicile on a su montrer de très belles choses, mais on avait besoin aussi de cette référence à l'extérieur. Et je pense qu'à Lyon, même si on prend pas les 3 points, on a su montrer de très belles choses, donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'on est dans une bonne dynamique. Et oui, on peut aller à Marseille en prétendant repartir de là-bas au moins avec un point.
OM à JOCR, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Et puis à 2 jours du derby Saint-Étienne-Lyon, une légende des Verts s'est éteinte aujourd'hui en Algérie.
Nous venons en effet d'apprendre la disparition de Rachid Merloufi, décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 88 ans. Attaquant né à Sétif, il avait fait les beaux jours du club stéphanois dans les années 50, puis à son retour dans les années 60. Entre-temps, en pleine guerre d'Algérie, il avait quitté la France dont il portait aussi les couleurs pour rejoindre l'équipe formée par le Front de Libération Nationale. Cette formation composée de nombreux joueurs expatriés en France avait disputé plus de 80 matchs à travers le monde, principalement dans des pays sympathisants de la cause indépendantiste. Plus tard, une fois de sa carrière de joueur terminée, Merloufi avait occupé le poste de sélectionneur des Fenecs d'Algérie.
Le rugby à la veille du premier match de la tournée d'automne du 15 de France. Ce duel face au Japon au Stade de France. Pour les Français, au-delà de l'aspect sportif, il y a une image à redorer.
Car il s'agira du premier match de la sélection de Fabien Galtier depuis la tournée estivale en Argentine. Un séjour sud-américain plombé par 2 affaires extra-sportives liées à des soirées arrosées. Le renvoi en France de Melvin Jaminet, auteur de propos racistes, suivi plusieurs jours plus tard des accusations de viol contre 2 internationaux, Hugo Oradou et Oscar Jégou. La Fédération française a réagi en tentant d'encadrer tous les joueurs et joueuses portant le maillot au coq avec une charte, interdisant par exemple la consommation d'alcool dans les vestiaires après les matchs. Tous disent y adhérer, à commencer par le capitaine des Bleus, Antoine Dupont.
Du moment où on représente l'équipe de France, on sait qu'on a eu une image publique à venir et des responsabilités, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc en ce sens-là, il n'y aura pas vraiment de changement, il y aura juste plus de clarté dans ce qu'on a le droit de faire et pas faire, et des moments qui seront choisis pour des moments de convivialité ou non. Et du moment que c'est partagé entre le staff et les joueurs, on sait que de toute façon, l'objectif commun, il est d'être le meilleur sur le terrain le week-end qui suit et les échéances qui arriveront en suivant. Donc on a été de suite aligné là-dessus, et c'est quelque chose qu'on n'a même pas eu à discuter, ça s'est fait naturellement, donc il n'y aura pas de changement notoire de ce côté-là non plus.
Antoine Dupont, le demi-mêlé du 15 de France, qui portera demain au Stade de France face au Japon le maillot de l'équipe de France pour la première fois depuis le quart de finale de la Coupe du Monde perdue il y a un peu plus d'un an.
C'était Babacar Diarra pour les sports.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Le monde en question à présent, avec les conséquences de l'élection présidentielle aux États-Unis et le retour triomphal de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une élection qui met le vieux continent au pied du mur. Alors Bruno Daroux, les Européens parviendront-ils à rester unis face au nouveau locataire de la Maison-Blanche ?
Eh bien, le premier problème, ce sont les divisions idéologiques entre Européens, entre les partisans d'une Europe fortement dépendante des États-Unis, notamment sur le plan militaire. Alors, on peut citer des pays comme la Hongrie ou encore la Pologne. Et puis, les pays qui pensent que l'Europe doit prendre des mesures pour se débrouiller seule en matière politique, économique et militaire. C'est bien sûr le point de vue, par exemple, d'Emmanuel Macron, qui insiste sur la nécessité pour l'Europe de sortir d'une forme de naïveté. Deuxième problème, les deux poids lourds de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, sont actuellement affaiblis économiquement et politiquement. Le chancelier Scholz était même absent de la réunion de la CPE, la Communauté politique européenne, après l'éclatement de sa coalition à Berlin.
Et ces divisions, pardonnez-moi, doivent d'abord être surmontées sur le dossier ukrainien.
Oui, car la crainte des Européens et de Kiev, bien sûr, est double. Avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, on peut s'attendre à une réduction plus ou moins forte, on ne sait pas encore, de l'aide américaine à l'Ukraine et parallèlement au lancement de négociations pour mettre un terme à la guerre avec Washington, Moscou et Kiev. C'est du moins ce que souhaite le futur président américain. Et les Européens là-dedans. Volodymyr Zelensky, qui était à Budapest hier, les a implorés de ne pas céder aux pressions des États-Unis ou pire encore de la Russie, notamment sur deux points essentiels, le refus d'une renonciation à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le refus de l'abandon de l'adhésion à terme de Kiev à l'OTAN. Pour l'instant, pas de réponse unanime de l'Europe.
Et puis avec Donald Trump, il y a un risque réel de quasi-guerre commerciale avec l'Europe.
Oui, Trump ne s'en cache pas. Durant la campagne, il a dit très clairement qu'il voulait taxer les produits européens exportés aux États-Unis de 10 à 20% selon les cas. Pour lui, économiquement, l'Europe, qu'il n'a pas hésité à qualifier de mini-Chine, est un concurrent qu'il faut dominer, sinon laminer. Les flux commerciaux entre les USA et l'UE sont très importants, mais se font au détriment des Américains avec plus de 300 milliards de déficit. C'est cela que le nouveau président veut corriger. Là encore, comment l'Europe va-t-elle réagir? D'abord, en imposant aussi des droits de douane, mais aussi et surtout en musclant son appareil productif et ses investissements dans l'avenir. L'innovation numérique, la transition écologique. Pour cela, les Européens vont-ils vraiment adopter le plan Draghi, qui estime que l'Europe doit débloquer 800 milliards de dollars pour rattraper son retard par rapport aux États-Unis? Cette question est aussi importante que l'autonomie stratégique du vieux continent. Reste maintenant à passer aux actes et pas en ordre dispersé. C'est là que tout se complique.
Analyse et commentaires de Bruno Daroux, comme tous les vendredis à cette même heure, pour Le Monde en question. Bonsoir Géraldine Catalano.
Bonsoir.
Rédactrice en chef du magazine L'Équipe, avec à la une des stars, parfaitement inconnue quelques jours avant, une des stars des Jeux, des derniers Jeux Olympiques Paralympiques à Paris.
Oui, il s'agit d'Aurélie Aubert, cette jeune femme qui a gravé son nom dans l'histoire de notre sport et des Jeux paralympiques en remportant le 2 septembre dernier la première médaille d'or en boccia.
Alors c'est quoi la boccia?
On compare souvent peut-être un peu rapidement la boccia à la pétanque, c'est un jeu de balles en fait, hein, autour duquel en fait se met en place toute une stratégie et l'idée c'est d'aller attraper en fait une autre balle à l'aide donc de balles qui sont pas de balles de cuir, qui ne sont pas très lourdes mais qu'on lance en direction d'une cible.
Donc c'est un sport inconnu avec une jeune femme inconnue. Pourquoi est-ce qu'elle a eu autant de succès lors de ces jeux et pourquoi est-ce qu'elle fait la une et plusieurs pages du magazine L'Équipe ce week-end?
C'est la magie des Jeux de Paris. Ce n'est pas la première fois que l'on revient sur l'une des stars ou sur un champion qui s'est illustré en particulier lors de ces Jeux. Ce qu'il y a de très émouvant avec Aurélie Aubert, c'est que personne ne s'attendait en effet à ce qu'elle devienne une des plus belles, des plus émouvantes ambassadrices de cette séquence extraordinaire qu'on a vécue cet été. Elle-même donc ne s'y attendait pas. C'est une jeune femme très discrète de 27 ans. Elle est atteinte de paralysie cérébrale. C'était lié à un manque d'oxygène à sa naissance. Et elle a pratiqué la boccia un peu par hasard. Et puis, peu à peu, en fait, elle s'est prise au jeu. Elle est devenue vraiment mordue de cette discipline, sans évidemment qu'on la connaisse. Et au jeu, elle qui était 16e mondiale avant la compétition, elle est devenue championne paralympique.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Comment elle a vécu cette célébrité et les honneurs qui lui ont été faits depuis?
Elle a basculé dans une séquence un peu étrange, hein. Elle le reconnaît. C'est une jeune femme très calme, qui se couche tous les soirs à 21h, qui a une relation très très forte avec celle qui est bien plus que sa coach, en fait. C'est une sorte de coach de vie, de coach sportif et de complice. Cette jeune femme de 27 ans apprend donc à gérer sa popularité, essaie de revenir à une forme de vie normale, à sa routine sportive, parce que c'est un cadre très serré. Donc il y a les entraînements, il y a aussi tous ses soins, tous les soins qu'elle reçoit. Donc on est allé la voir dans la petite commune de l'Eure où elle réside, dans un foyer d'accueil, parce que c'est une jeune femme qui est orpheline. Et on a découvert une championne à la fois très dans la retenue, très pudique, très émouvante, mais aussi un très fort tempérament. Et cette relation aussi très fusionnelle, mais assez sportive, qu'elle a avec sa coach, était très intéressante à décrypter. Donc c'était une rencontre très, très émouvante, qui a capturé aussi un très bon photographe. Donc en image, on sent qu'on la découvre, qu'elle se découvre. Elle dit d'ailleurs de façon assez touchante qu'elle a appris à parler en public depuis sa gloire nouvelle et qu'elle y prend peu à peu goût. Donc c'est une jeune femme qui sort un peu de la coquille dans laquelle elle était grâce au jeu.
Aurélie Aubert, donc, dans le magazine L'Équipe, et vos reporters sont par ailleurs retournés sur la tombe de Bernard Tapie, l'ancien patron emblématique du club de football de Marseille, l'OM.
Absolument. Autre cadre, autre ambiance. Donc, on a pris le TGV pour aller à Marseille, en effet, dans le quartier de Mazargues, qui se trouve dans le sud de la ville, au pied, donc, de la tombe de Bernard Tapie, donc, l'ancien président de l'OM qu'on ne présente plus, qui est mort il y a un tout petit peu plus de 3 ans aujourd'hui. On n'a pas choisi ce jour par hasard, on y est allé le dimanche 27 octobre, qui est le jour du classique, qui était le jour du classique entre l'OM et le PSG, bon, qui n'a pas un match, qui n'a pas tourné du tout à la faveur de l'OM, mais peu importe, parce que la ferveur est là. Et ce qu'on a voulu, c'est sentir justement capturer cette ferveur en regardant de quelle manière ce petit temple était aménagé, vivait, sachant qu'il préside, que le boss, comme on l'appelle toujours à Marseille, préside encore depuis son cimetière, au fond, sa ville, sachant que sa tombe est un peu surélevée.
Oui, j'allais vous demander à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle est couverte de banderoles, d'écharpes, de photos?
Il y a un peu tout ça, en effet. Il y a beaucoup de pèlerins qui vont s'y recueillir, mais il y a aussi beaucoup de petites reliques qui témoignent de la place qu'occupe encore dans le cœur des Marseillais et des supporters évidemment de l'OM Bernard Tapie. Donc il y a des écharpes, en effet, il y a des bougies, il y a des petites plaques commémoratives, il y a des photos. C'est assez émouvant, c'est assez fleuri aussi, sans mauvais jeu de mots.
Un véritable culte qu'il y a encore consacré. Et
tout puis ça à quelques kilomètres du stade Vélodrome.
Bien évidemment. Et puis cette interview croisée à lire, celle entre un champion de MMA et un ancien athlète de pancrace, il se trouve qu'ils sont père et fils.
Alors, la rencontre, en effet, les deux hommes que l'on a réunis se connaissent très bien. L'un est le fils de l'autre. Le premier est comédien, mais il est grand sportif. Il est d'abord danseur. On l'a vu, il était formidable d'ailleurs dans le rôle de Joey Star dans la série Le Monde de Demain qui retraçait les débuts de MTM. Sa prochaine apparition à l'écran, c'est dans la série La Cage de Netflix qui est consacrée au MMA. Donc, il y incarne un jeune combattant de MMA. Et pour ce rôle, il a reçu l'appui et quasiment l'accompagnement sportif de son papa qui lui-même donc est champion de pancrace. Et le pancrace, c'est pas un sport très connu, mais c'est une discipline qui est reconnue.
Très ancien.
Très ancienne, absolument. C'est un sport de combat, absolument. Voilà, c'est une forme de lutte qui nous est héritée de la Grèce antique. Ce n'est pas n'importe quel champion, ce papa. Et c'est donc le papa de Melvin Boomer. Et ce champion est un ancien champion de France, donc de pancrace, et sparring partner occasionnel de la star française de MMA qui s'appelle donc Cyril Gann. Donc c'est une complicité à la fois affective, bien sûr, mais sportive entre ces deux hommes qu'on a voulu raconter dans les pages du journal.
Ah oui, c'est donc à lire dans le magazine L'Équipe, dont vous êtes la rédactrice en chef, Géraldine Catalano. RFI Soir, la suite, eh bien c'est l'actualité en Afrique dans environ une minute maintenant.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, X et Instagram. Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Que s'est-il passé cette semaine sur la planète économie? Quels sont les grands enjeux qui vont marquer les suivantes dans un monde en pleine transition? Écho d'ici, écho d'ailleurs donne chaque samedi la parole aux meilleurs experts et aux acteurs de l'économie pour décrypter les problématiques internationales et les illustrer sur le terrain.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, avec la BOAD.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Comment sauvegarder la Casbah d'Alger, plongée dans le centre historique de la capitale algérienne, lieu de mémoire et lieu d'histoire, cité millénaire en quête de renaissance, avec l'architecte Nabila Chérif et l'illustrateur Jacques Ferrandez, une émission enregistrée à l'occasion des 30e rendez-vous de l'histoire de Blois.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.